100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, les revendications identitaires resurgissent en Europe. Alors, comment vivre ensemble? Nous allons à Mostar, ville emblématique des divisions et des tensions ethniques qui gangrènent la Bosnie-Herzégovine. L'image de la destruction de son pont lors de la guerre des années 90 avait fait le tour du monde et la ville reste divisée entre croates catholiques et bosniaques musulmans. Mais à Mostar, il y a aussi une école de musique qui rassemble les jeunes de tous horizons et qui bat en brèche le discours des politiciens. C'est un reportage de Louis Seyé.
Plus que quelques jours avant le concert et il reste encore quelques notes à ajuster du côté des jeunes chanteuses. Coiffure rock et chaîne punk autour du cou, Sarah est une habituée des répétitions de la Mostar Rock School.
Quand j'étais au lycée, je suivais le travail de l'école, mais je ne pouvais pas prendre des cours parce qu'en fait, j'habitais à Ljubuški, une petite ville qui se trouve à une heure de route de Mostar. Quand je suis arrivée ici pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression d'être enfin à ma place quelque part. J'étais comme chez moi. L'école fonctionne plus comme une grande famille.
En Bosnie-Herzégovine, Mostar est souvent présenté comme la ville symbole des divisions communautaires héritées de la guerre des années 90. À l'ouest de la rivière Neretva, la partie croate, catholique, et à l'est, la partie bosniaque, musulmane. Malgré les ponts qui relient les deux rives, chaque communauté dispose de ses propres institutions. Pour Sarah, le fonctionnement très détendu de la Rock School est une bouffée d'oxygène.
Au bout d'un moment, il faut se couper de la politique. Toute la politique en Bosnie-Herzégovine, c'est diviser pour mieux régner. Et je pense que les jeunes générations peuvent surmonter ces discours de division parce qu'on s'en fiche de ce que disent les politiciens. On sait bien qu'en fait, la situation est totalement différente de ce qu'ils racontent.
Pour faire tomber les barrières et rapprocher les jeunes mostariens, la Rock School mise avant tout sur ses cours collectifs, particulièrement populaires. Tous les 40 jours, les 200 élèves de l'école sont répartis dans une quinzaine de groupes. Le but, jouer sur scène une reprise et une composition originale. À 22 ans, Nézir a déjà joué de la guitare dans plusieurs de ses groupes de rock éphémères.
Ici, c'est vraiment un endroit sympa parce que le fonctionnement de l'école nous permet de sortir de notre bulle. Si on reste enfermé dans notre cercle de personnes, on ne peut pas rencontrer des gens différents. Et ici, ils ont ce programme qui fait qu'on doit jouer avec un nouveau groupe tous les 40 jours. C'est une bonne façon de s'adapter et de faire connaissance avec d'autres personnes. Parce qu'après, tu vas prendre un verre avec des gens de ton groupe et puis tu discutes avec la table d'à côté. C'est vraiment un endroit parfait pour rencontrer des gens différents.
À Mostar, les partis nationalistes n'ont jamais cessé de faire l'éloge de la division. Et pour certaines familles, il est encore impensable de se rendre de l'autre côté de la ville. Dans ce paysage morose, la Rock School est l'un des rares lieux qui a su rassembler la jeunesse. À 28 ans, Semi a été l'un des premiers élèves de la Rock School lors de son ouverture il y a 10 ans. Il s'occupe aujourd'hui des groupes de rock.
Certains élèves ont été un peu surpris en arrivant chez nous. Mais ils ne se sont pas dit « Waouh, c'est génial ce fonctionnement ». Non, ils se sont juste dit « Mais pourquoi les gens parlent-ils de ces divisions ?» En fait, tout va bien maintenant, on travaille bien ensemble. À mon avis, les jeunes n'ont pas autant de préjugés que leurs aînés. Ils savent qu'il y a eu cette guerre, mais qu'elle est finie depuis 30 ans. Les nouvelles générations pensent complètement différemment.
Le succès de la Rock School de Mostar tient beaucoup à la personnalité de son fondateur. Aujourd'hui âgé de 43 ans, Oran Maslow a grandi pendant la guerre. Ce rocker de 2 mètres de haut s'est construit grâce à la musique et est devenu un percussionniste réputé. Le gourou de l'école, comme le surnomment certains élèves, s'est toujours engagé contre les divisions de sa ville.
Notre école de rock, c'est un microcosme. Nous avons travaillé avec 1200 personnes. Et en Bosnie-Herzégovine, vivent environ 3 millions de personnes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes plus âgées qui savent ce qui s'est passé dans les années 90. Elles savent aussi qu'elles vivent beaucoup mieux quand elles travaillent ensemble, quand elles partagent des choses. Donc je pense que ces discours de séparation devraient être ignorés. Il faut juste que l'on aille de l'avant et qu'on travaille ensemble.
Malgré son succès, la Rock School peine à freiner l'exode de la jeunesse de Mostar. Lassés de la corruption et des tensions politiques, les jeunes bosniens sont de plus en plus nombreux à vouloir émigrer. Selon une récente enquête des Nations Unies, près d'un jeune sur deux envisage aujourd'hui de quitter le pays.
Un reportage signé Louis Seyé. Aux Pays-Bas, et plus précisément à Rotterdam, le maire a décidé de faire d'un des quartiers les plus défavorisés de la ville portuaire une priorité au nom du vivre ensemble. Il délocalise ainsi régulièrement son bureau de la mairie du centre de Rotterdam vers le quartier de Carnis dans le sud. Antoine Mouteau.
Insécurité, mal logement ou encore problème de cohésion sociale, Carnisse est l'un des quartiers qui s'en sort le moins bien dans le classement des districts de Rotterdam, établi tous les deux ans par les autorités locales selon le Weik Profil. La plupart des signaux sont au rouge. Face à ce constat, en 2020, le maire Ahmed Aboutaleb a annoncé vouloir enfin agir. Dans un premier temps, il promet de venir travailler au moins une fois par semaine dans ce quartier de Charloos, un arrondissement défavorisé du sud de Rotterdam, dont plus de la moitié des habitants est issue de l'immigration. Carnisse peut se réjouir de mon intérêt au cours des prochains mois, avait-il déclaré à la télévision régionale Rheinmont. Régulièrement, il vient discuter avec des riverains, objectif se montrer plus proche des 12 000 habitants de cette zone trop longtemps délaissée, mais surtout régler les problèmes inquiétants auxquels ils sont confrontés. Selon Ahmed Aboutaleb, en plus de la paupérisation grandissante, Carnisse voit arriver de nombreux spéculateurs et marchands de sommeil. De plus en plus de personnes dorment dans des petits espaces, dans des caves notamment, et il veut que cela cesse. Beaucoup de travailleurs étrangers, notamment de Pologne et de Bulgarie, payent d'importants loyers pour vivre dans des espaces exigus. Alors, à l'instar d'autres maires de grandes villes néerlandaises, il fait pression sur le gouvernement à La Haye pour permettre aux autorités locales d'interdire certains territoires aux investisseurs. Depuis le 1er janvier de cette année, Rotterdam et d'autres ont désormais le droit de les empêcher d'acheter des logements bon marché et à prix modéré pour les relouer ensuite.
En Hongrie, les Roms représentent environ 8% des 10 millions d'habitants. Alors bien qu'ils parlent le hongrois, qu'ils soient sédentarisés depuis des siècles, ils subissent le racisme de la société majoritaire. 80% de cette population rom vit sous le seuil de risque de pauvreté selon Eurostat. Alors pour battre en brèche les clichés sur les Roms, un entrepreneur a lancé une télévision privée. Elle s'appelle Dick TV et c'est la première chaîne rom de Hongrie. On en parle avec notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Bonjour Florence.
Bonjour Juliette.
Florence, elle ressemble à quoi cette chaîne de télévision Dick TV ?
Eh bien, en romani, l'une des langues tiganes, Dick veut dire « regarder ». La cible de cette chaîne câblée, c'est bien sûr la communauté rom. Mais ce média s'adresse aussi à tout le monde. Le slogan de Dick TV, c'est « une chaîne sur les roms, mais pas que pour les roms ». Le but est de sortir des clichés négatifs véhiculés par les médias traditionnels et de présenter les tziganes tels qu'ils sont. Alors il faut préciser qu'en hongrois, tzigane n'est pas un mot péjoratif. Les membres de cette communauté sont fiers de dire « je suis tzigane ». Et puis, autre objectif de cette télévision privée, c'est de rassembler tous les Hongrois devant le petit écran.
Et qui est à l'origine de ce projet ? Comment est-ce que ça a démarré ?
Eh bien, le créateur de Dick TV s'appelle Elek Balog. Il a 50 ans et c'est un producteur autodidacte. Il est issu d'une famille rom très pauvre. Il a grandi dans une maison au sol de terre battue à l'est du pays. Alors, ça n'a pas été facile de démarrer ce projet car il n'avait pas beaucoup de moyens. Il a commencé en 2015 par diffuser une émission musicale sur YouTube avec du matériel prêté par des copains. Puis, il a produit un talk show et des clips très populaires chez les internautes, à tel point qu'il a fini par avoir 300 000 abonnés sur YouTube. Forte de ce succès, Dick TV est devenue une chaîne à part entière fin 2019 grâce à un homme d'affaires roumain qui a investi de l'argent dans l'entreprise. Aujourd'hui, Dick TV a un vrai studio dans la banlieue de Budapest, une vingtaine de salariés et plusieurs bouquets de chaînes câblées la proposent à leurs abonnés.
Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette chaîne ?
À première vue, c'est une chaîne de divertissement tout à fait classique, avec des émissions de cuisine, des programmes pour enfants et des talk-shows. Mais Dick TV offre plus de musique que les autres antennes. Elle donne régulièrement le micro à des artistes tziganes, qu'on ne voit pas tellement dans les autres médias mainstream. Et puis, grâce à d'autres émissions, on peut apprendre les danses tziganes. Il y a aussi des séries, l'une d'elles a été écrite par Elek Balog. Cette série décrit le quotidien d'une famille rome qui est complètement étranglée par les dettes. Ce feuilleton très réaliste a eu beaucoup de succès. La chaîne a reçu des centaines de lettres de félicitations de spectateurs non-roms. Il faut dire que beaucoup de Hongrois vivent à crédit. L'endettement est vraiment un problème qui les empêche de fermer l'œil et les spectateurs se sont identifiés à cette série. Elek Balog, le fondateur de Dick TV, estime qu'il a réussi son pari. La chaîne a 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est devenu un outil qui permet à l'identité tzigane de s'exprimer et c'est aussi un pont qui relie les différentes communautés de Hongrie.
Merci Florence, à bientôt. Dans une France en pré-campagne électorale, le débat politique tourne bien souvent à l'obsession identitaire. Alors comment vit-on lorsqu'on fait partie d'une minorité ? Avec près de 80 000 membres, Marseille abrite la deuxième communauté juive de France, la troisième d'Europe après Paris et Londres. La ville comprend une cinquantaine de synagogues, une radio communautaire, un centre culturel juif et plusieurs mouvements de jeunesse. C'est une communauté particulièrement dynamique, Yoram Melloul.
Chants, prières et activités. Une soixantaine de jeunes se réunissent ce dimanche de fin novembre pour une après-midi dans un parc de la ville. Nathan passe son bac cette année, il est membre du Dror, un des quatre mouvements de jeunesse juive de Marseille.
Moi j'habite à Malpassé, dans le 13e.
Il y a une grosse communauté juive ?
Ah oui, très grosse. Il y a à peu près, dans le 13e, je crois qu'il y a 3-4 synagogues.
Il n'y a pas beaucoup de juifs dans son lycée, alors il est là pour garder un lien avec les adolescents de sa communauté.
Comme tu te mélanges avec d'autres personnes, bah, du coup tu penses plus vraiment à ta religion comme si tu étais dans une école juive. Et le fait de se retrouver le samedi, de faire des activités entre juifs, bah, ça te permet de quand même avoir un lien avec cette religion et c'est vraiment important.
Il lui est arrivé de subir des remarques antisémites au lycée et ce n'est pas le seul.
En parlant avec pas mal de jeunes, je sais qu'il y a des expériences difficiles, compliquées, voire violentes qu'ils ont pu vivre à l'école, dans la rue ou dans d'autres lieux.
Daniel Ben Saïd chapeaute le Dror et pour lui, sa communauté fait partie du paysage de la ville.
Si on vit à Marseille, et on ne sait pas ce qui est un juif, c'est que on sort pas ou on a pas fréquenté vraiment la ville, etc. Parce que c'est pas bizarre de voir quelqu'un avec la kippa dans la rue ou on habille vraiment religieux si on veut, etc. On est une minorité, mais on existe bien.
Le constat est partagé par Elia Waltabé, rabbin et responsable de la communauté Lubavitch de Marseille, un mouvement qui veut ramener les juifs vers la religion.
Je sais qu'il y a des préjugés sur la ville de Marseille, pour certains quartiers. Ce n'est pas le cas en général pour la communauté juive qui vit dans des quartiers qui sont assez calmes. Voilà, c'est ce que moi j'ai eu comme expérience depuis que je suis à Marseille. Et en tout cas, dans les secteurs où la communauté juive est présente, j'ai pas senti de tension.
Comme tous les ans, il place en lien avec la mairie une quinzaine de Hanoukiot sur les poteaux de la ville. C'est le chandelier traditionnel de la fête de Hanouka. Hanouka qui est appelée aussi la fête des Lumières et qui s'étale sur une semaine pendant laquelle le mouvement Lubavitch organise des allumages publics de bougies. Ce soir-là, l'allumage se passe sur le rond-point du Prado, à deux pas du stade Vélodrome.
C'est génial, moi je me crois à Jérusalem là.
Là c'est Rosalia qui parle. Elle est lycéenne dans une école privée juive de Marseille.
Pourquoi tu te crois à Jérusalem ?
Parce que j'avais fait un voyage en Israël et j'avais vu pareil les Hanoukia comme ça, on allume en pleine rue, je trouve ça parfait. En plus dans un quartier comme ça, où il y a tout le monde qui passe et tout, c'est génial. Qu'on puisse montrer à tout le monde que oui, on peut pratiquer notre religion sans souci. Quoi.
Tous les âges viennent admirer l'allumage des bougies, comme Shlomo qui a créé un groupe Facebook pour que les juifs et les juives célibataires de plus de 35 ans puissent se rencontrer en dehors de la synagogue.
Même le juif le moins pratiquant, il a cette identité en lui et il a besoin de la partager avec une personne qui connaît ça aussi.
Et ça marche, hein. 6 mois après sa création, le groupe a presque 2000 abonnés.
Si vous voulez, avant, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'événements célibataires à Paris, à Marseille. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens ne savent plus comment faire pour se rencontrer. On essaye de remettre ça au bout du jour Et les gens viennent, ils sont détendus, ils peuvent manger, boire, danser et discuter ensemble.
Il y a une vraie demande pour une vie communautaire au sens large.
Une vie communautaire au sens large, exactement.
Ce soir-là, ils sont une bonne soixantaine de personnes, dont beaucoup d'enfants. Tous se régalent de soufganiyot, les beignets traditionnels de Hanouka. Mais Marcus, le DJ, trouve que ce n'est pas assez. La faute à la pluie qui n'arrête pas de tomber.
J'ai connu des allumages avec 400-500 personnes. Avec des défilés de Hanoukiyot, donc ce fameux chandelier qu'on a sur les voitures, où on avait entre 80 et 100 voitures qui défilaient au même moment.
La communauté juive marseillaise, il la connaît bien, il y anime de nombreux événements.
On a des religieux, on a des moins religieux, on a des pas du tout religieux, mais le but de ce genre d'événement, c'est de réunir ces trois catégories de personnes qu'on a dans la communauté.
C'est facile de respecter le judaïsme, d'avoir accès à des magasins cachers, à des écoles ici?
Ah, complètement. Je crois qu'on est à une trentaine de restaurants cachers. Au niveau des écoles, il y en a 5 ou 6 maintenant. Des synagogues, tout ça, enfin, il y en a vraiment partout. Sur cette ville-là, ouais, c'est pas un problème. Un peu comme à Paris. Hein.
Vous, par exemple, vous portez la kippa tout le temps?
Quasiment tout le temps.
Finalement, vous n'avez pas de remarques, vous n'avez rien?
Jamais. J'impressionne peut-être, je sais pas.
Et comme le dit Marcus...
Il fait bon vivre à Marseille quand on est juif.
Lui, comme la plupart des personnes interrogées, n'envisage pas de départ vers Israël.
Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif.
La France vient de prendre pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Alors parmi les personnages clés de cette présidence, il y a Philippe Léglise-Costa, le représentant permanent de la France auprès de l'Union, Anastasia Becchio.
C'est un travail d'explication, de conviction, de négociation aussi, car il faut préparer des décisions. Les décisions des chefs d'État et de gouvernement, les décisions des ministres lorsqu'ils viennent au Conseil.
À la tête de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, Philippe Léglise-Costa, interrogé ici par France Télévisions, doit jouer le rôle de courroie de transmission auprès de l'ensemble des institutions européennes. Cette représentation, il la connaissait déjà très bien avant d'en prendre les rênes en 2017, puisqu'il a notamment été son numéro 2 au moment de la précédente présidence française de l'UE en 2008. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors.
Beaucoup de ministres à l'époque et des ministres d'autres pays se souviennent de l'avoir vu travailler nuit et jour pour obtenir un accord sur ce qu'on appelait le paquet énergie-climat. Donc lui, il a ce regard à la fois panoramique mais aussi sur la durée. Il connaît les dossiers dans toute leur genèse.
Âgé de 55 ans, Philippe Léglise-Costa connaît les arcanes de l'Union européenne par cœur. Pour un diplomate, il a un parcours atypique, ayant fait Polytechnique et les Ponts et Chaussées. Michel Mangenot, directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et auteur de l'ouvrage « Qui gouverne l'Union européenne ?».
Moi, j'ai l'habitude de l'appeler un ingénieur devenu diplomate. Son intégration au corps diplomatique s'est faite par un ancien représentant permanent très important qu'il avait un peu pris sous son aile, qui était un peu une légende à Bruxelles, Pierre de Boissieu. L'élément sans doute le plus important de sa carrière européenne, c'est évidemment quand il est devenu en 2012 conseiller aux affaires européennes du président de la République François Hollande. En 2014, il a abandonné sa fonction officiellement à l'Élysée pour se concentrer sur la fonction de secrétaire général des affaires européennes, c'est-à-dire le principal haut fonctionnaire en France qui prépare les affaires européennes sous l'autorité du Premier ministre.
Dans les faits, Philippe Léglise-Costa continue à préparer le Conseil européen avec le président de la République. Il aurait même conservé un bureau à l'Élysée. L'arrivée d'Emmanuel Macron change la donne. Il n'y a pas de relation de confiance étroite entre les deux hommes, mais le chef de l'État finit quand même par le nommer à Bruxelles.
Ce ne sont pas des proches. L'équipe réduite du président de la République, en tout cas pour les affaires européennes, c'est évidemment Clément Beaune. Moi, je dirais que la raison pour laquelle il est nommé, c'est qu'il était devenu un peu incontournable dans les affaires européennes. Son profil est unanimement respecté à Bruxelles. C'est quelqu'un d'incontournable au sein de l'État.
Un rôle d'autant plus important que cette présidence du Conseil de l'Union européenne coïncide avec l'élection présidentielle française. Sébastien Maillard.
Il va vraiment avoir un rôle clé, encore plus en avril, quand on passera d'un gouvernement à l'autre, peut-être d'un président à un autre. Lui va assurer la continuité à Bruxelles, de la présidence française.
Renforcé, le bureau de Philippe Léglise-Costa travaille depuis des mois à plein régime. Le programme est chargé, les négociateurs français vont devoir gérer 250 propositions législatives et organiser plus de 2000 réunions.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.